Prologue. L'enfant perçut le pas lourd de l'homme qui s'approchait. Acculé dans ce réduit, il n'avait plus d'issue. Le rideau fut tiré d'un seul coup. Terrifié, ses jambes ne le portant plus, il tomba à genoux, les yeux fixant les monstrueuses chaussures aux semelles épaisses. Des boots avec de gros lacets noirs qui recouvraient les chevilles.
Ah, t'étais là, toi, petit con.
Il y eut ensuite un silence épouvantable. L'enfant pensait mourir, mais au lieu de se révolter, il se sentait mou, incapable du moindre mouvement. L'homme s'accroupit et de son énorme pogne le saisit à la gorge.
« Regarde-moi. »
L'enfant leva des yeux terrifiés et croisa ceux de l'homme, d'une dureté de bronze, insondable de cruauté. Il crut s'évanouir.
« Écoute-moi bien, petit con. T'as rien vu. Tu sais rien. Si tu dis quoi que ce soit, à qui que ce soit, je te tue. »
La menace. Chapitre 1. Tout commença d'une manière si étrange que le commandant Hubert Grimm, de la PJ de Rennes, aurait dû être surpris ce soir-là en ouvrant sa boîte aux lettres. Pourtant, il ne le fut pas. Le matin même, il avait été saisi par un pressentiment désagréable alors qu'il marchait vers la station de métro. C'était un parcours routinier qu'il accomplissait chaque jour pour aller à l'hôtel de police. Les mains dans les poches, l'esprit absorbé par diverses pensées, les yeux baissés pour éviter de mettre le pied sur une crotte de chien, il ne faisait guère attention aux passants, et il lui arrivait parfois d'en bousculer certains par mégarde et de s'excuser aussitôt avant de repartir. Ce fut une sensation, plus qu'une certitude. Nous possédons tous une sorte d'instinct animal, un signal interne qui alerte quand on nous observe. Ainsi, il n'est pas rare de lever la tête et de croiser un regard qui paraît nous dévisager. La personne généralement se détourne et l'incident est clos. Harcelé par cette pénible impression, Grimm s'était arrêté au milieu du trottoir. Il s'était retourné, mais n'avait rien vu de tangible, que la masse en mouvement des gens se rendant à leur travail. Se trompait-il ? Sans doute, puisque nul individu ne s'était immobilisé en catastrophe. Personne n'avait fait semblant de s'intéresser à la vitrine d'un magasin. Aucun demi-tour suspect ne s'était produit. Il avait attendu quelques secondes avant de reprendre sa marche. Cette vérification aurait dû le rassurer. Ce fut le contraire. Avant de pénétrer dans la rame de métro, il avait de nouveau inspecté ses arrières, victime d'une inquiétude grandissante. Sans motif, sans raison apparente, ce qui était bien le plus troublant. À l'hôtel de police, en débarquant dans l'open space où ses trois adjoints bavardaient tranquillement un gobelet de café à la main, il avait la mine soucieuse et les sourcils froncés. Hermeline l'avait tout de suite remarqué.
« Tu fais une drôle de tête, Hubert. Ça va pas ?»
Toute la journée, cette appréhension l'avait poursuivi, et en travaillant avec Jarry et Blanchard sur une délicate affaire de drogue qui les occupait depuis plusieurs semaines, il avait eu des difficultés à se concentrer. À plusieurs reprises, ses deux collègues avaient dû lui rappeler des faits que pourtant il n'ignorait pas. Au point que Corentin Jarry, jamais avare de plaisanteries en tout genre, lui avait lancé sur ce ton sérieux de pince sans rire qu'il affectionnait.
« Tu es vraiment stupéfiant aujourd'hui !»
Dans la soirée, il avait regagné son domicile en jetant fréquemment des regards autour de lui, cherchant la cause de son anxiété. Mais la réalité, du moins celle découlant de sa surveillance, semblait toujours démentir son instinct. Ce fut donc dans le hall de l'immeuble que Grimm reçut la preuve que quelque chose clochait. Dans la boîte aux lettres, une enveloppe. Il s'attendait à un événement, et celui-ci venait de se produire. Hormis les factures de gaz ou d'électricité et diverses correspondances administratives, il ne recevait jamais de courrier. Jamais. Il renonça à l'ouvrir immédiatement. En grimpant les marches de l'escalier, il l'examina avec attention. L'écriture lui était inconnue. Son nom et son adresse formaient des jambages hauts, pointus, agités, agressifs. Au dos, rien. L'expéditeur n'avait pas pris la peine d'indiquer son identité. Il jeta la lettre sur le canapé, ouvrit le réfrigérateur et décapsula une bière. Après avoir pompé deux fois de suite sur une cigarette, il but d'un trait la moitié de la bouteille, le regard posé sur la lettre qui paraissait le défier. S'asseyant sur le divan, il la décacheta sans ménagement. Le message était rédigé de la même écriture inquiétante. « Tu es fier de ce que tu as fait. L'heure des comptes a sonné. » Anonyme, bien sûr. Telle une horloge qui se dérègle et ralentit, les battements de son cœur se firent plus sourds et plus lents dans sa poitrine. Ayant l'habitude d'analyser rapidement les données, il perçut tout de suite les deux volets du message. Une accusation et une menace. L'accusation était obscure. Qu'avait-il donc fait? Certes, son métier consistait à enquêter et à mettre hors d'état de nuire des criminels. Un flic de la PJ ne peut se prévaloir de manquer d'ennemis. Le commandant Hubert Grimm, pas plus qu'un autre. Mais en l'occurrence, à quelle affaire cette allusion se rapportait-elle? Il n'en avait pas la moindre idée. La menace, en revanche, était limpide. L'individu n'y allait pas par quatre chemins. Il y avait l'imminence d'une vengeance qui pouvait l'atteindre à tout moment. Sa vie était en danger. Car on n'écrit pas ce genre de lettre pour mettre un simple point dans la gueule de son ennemi. On le tue. Son expérience de flic en témoignait. Et si on le prévient avant, c'est parce que l'assassin veut être sûr que la future victime a bien compris pourquoi elle va mourir et qui s'apprête à la tuer. Sans y réfléchir, Grimm se leva et ferma à clé la porte d'entrée. Puis, il alla à la fenêtre et souleva doucement le voilage. La rue était déserte. À la lumière des lampadaires, quelques passants pressaient, mais personne ne faisait le guet face à l'immeuble. Éteignant la lumière du salon, il ouvrit la porte-fenêtre et se glissa avec précaution sur le balcon pour s'en assurer. Penché par-dessus la rambarde, il inspecta attentivement les deux chaussées. Rien de suspect. Alors il s'assit sur le canapé et alluma une nouvelle cigarette. Le pire était de ne pas comprendre ce qui lui était reproché, et de n'avoir pas la moindre hypothèse sur l'identité de l'accusateur. Ces questions tournaient en boucle dans sa tête et produisaient un effet dévastateur sur son moral. La peur le gagnait. Risquait-il d'être abattu en pleine rue comme un chien? Quand il se coucha, il songea qu'il avait laissé son arme de service à la PJ et qu'il n'avait rien pour se défendre. Chapitre 2. Au cours de la nuit, Grimm avait ressassé une à une les dernières affaires criminelles auxquelles il avait participé, sans trouver la clé de l'accusation. Mais la lettre était toujours là, sur le divan, comme un rappel insistant du danger. La prudence la plus élémentaire était de ne pas sortir. S'il était attendu sur le trottoir ou sur son trajet vers le métro, il n'aurait aucune possibilité de riposter et pouvait être abattu n'importe où. Il saisit son portable et téléphona à Jarry. Celui-ci était le meilleur tireur de leur groupe. Vif et réactif, il était la personne appropriée. La voix précipitée de Grimm trahissait son angoisse. « Corentin, es-tu encore chez toi ?»«
Oui. » »«
As-tu ton arme avec toi ?»«
Qu'est-ce qui se passe ?»«
Ton arme, tu l'as ou pas ?»«
Oui. » »«
Passe me prendre en voiture. Je t'attendrai dans le hall de mon immeuble. Tu t'arrêtes, tu m'envoies un SMS, tu ouvres la portière du passager, tu n'éteins pas le moteur, je te rejoins et tu redémarres aussitôt. » Il y eut un silence.
« Mais enfin, Hubert, dis-moi quand même !»«
Je t'expliquerai. » Quelques minutes plus tard, Grimm se tenait derrière la porte de son immeuble et attendait. Avait-il le sentiment de risquer sa vie? Au cours de sa carrière, il avait vu tant de meurtres, tant d'assassins, que la mort rôdait toujours un peu autour de lui. Ce contact permanent avec la faucheuse, aucun flic n'y pensait jamais. Sans quoi, on ne peut pas faire ce métier. Et quand il en va autrement, c'est qu'il est temps de raccrocher. Cependant, c'était la première fois qu'il était directement visé. Il ne recherchait pas un tueur, il en était la victime potentielle. Et cette situation nouvelle le prenait aux tripes. Il reçut le SMS. Aussitôt, il se précipita dehors avant même de localiser la voiture de Jarry. Il la vit face à lui, ainsi que la portière ouverte, et il s'engouffra dans l'habitacle. « Fonce !» Pour éviter de continuer à souiller la lettre avec ses empreintes et son ADN, Grimm l'avait manipulée et déposée avec une pince sur le bureau d'Hermeline. Avec sa lenteur légendaire, Éric Blanchard avait déplié son double maître et, d'un pas mesuré, il était allé lire la menace. Puis il s'était rassis en hochant la tête et avait affirmé avec son flegme habituel «
Ben, y a un mec qui t'en veut. »
À ce stade, voilà bien tout ce qu'on pouvait dire. Et cette courte phrase résumait parfaitement la pensée d'Hermeline et de Jarry.